20h01 sur Radio G. Tout de suite, c'est l'occasion de retrouver une émission de Génération Sport. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Génération Sport. On est ensemble jusqu'à 21h pour parler de l'actualité sportive locale et internationale, même si elle est assez maigre en ce moment. Il y a quand même des trucs à dire, notamment sur le côté international. En tout cas, voilà, on est très heureux d'être avec vous pour parler de sport pendant une petite heure. À mes côtés, toujours mes fidèles acolytes, à ma gauche, Faustin. Salut Faustin, comment ça va?
Salut tout le monde, salut Alex. Bah, ça va très bien. En ce moment, je suis en plein dans mes révisions pour le bac de français. Ouais.
C'est ça, c'est...
Moi, je passe l'oral vendredi.
Ok, bah déjà, on va te dire merde. Et puis, on va surtout te souhaiter d'avoir la meilleure note possible. Est-ce qu'il y a un thème sur lequel tu voudrais tomber?
Je dirais le théâtre, ce que j'aime le moins. Mais sinon, ouais. Il y a un texte, c'est Le loup et l'agneau, celui-là.
Ok, tu l'as bien.
Mon rêve que je tombe dessus.
Ok, très bien.
J'ai vraiment l'impression que ça évolue pas, les textes.
Non, c'est les mêmes, c'est vraiment les mêmes. Mais oui, c'est vrai que le bac de français, c'est toujours le début du bac, en fait, c'est ça. Ouais. Donc c'est
on a déjà eu l'écrit quand même. Donc,
oui, c'est vrai. Ah, ok, c'est avant du coup.
Ouais, okay. C'est vendredi dernier.
Ok. Dernier. Et t'as géré?
J'ai géré,
normalement. Ok, bah nickel. Cédric, toi, le bac, il est bien loin, sans vouloir te faire offense, mais.
2004.
Mais comment ça va, en tout cas, de ton côté?
Un titre ce week-end sur FIFA, donc ça peut aller.
Oh, un titre sur FIFA, un titre de quoi?
On a fait monter Div 9 avec le titre de championnat.
Pardon, dis quoi?
Div 9.
Div 9, ah, 19, ok, d'accord.
Ouais, la division 10, qui est la plus basse. Du coup, on s'est créé un petit club pro.
Club pro, ouais, c'est intéressant ça. C'est pour rappeler aux auditeurs, c'est quand on joue.
On joue un joueur.
C'est ça, voilà. Dans une équipe. Vous, vous êtes combien dans l'équipe?
On est à peu près 5-6.
Ok. Donc voilà, petit succès quand même.
On se fait un petit plaisir ce week-end. Ouais.
C'est sympa, ça va être sympa que le pro. J'ai toujours kiffé regarder les gens.
C'est sympa.
À l'époque du FC Silmi, notamment sur Twitch. Et c'est vrai que c'était assez intéressant.
Si tu vois la méta de l'époque qui faisait rager, c'est toujours la même.
Ok, d'accord.
Des joueurs qui sont boostés de façon à courir, de façon débile.
Toi, tu joues beaucoup à FIFA de base?
Non,
t'es pas trop.
Non, là, on a profité que le 2003 est passé en, on va dire, gratuit dans le Game Pass.
2023.
Le 2023, ouais. Enfin, qui sera le dernier FIFA, de toute façon.
Ah oui, c'est vrai, maintenant, c'est qu'après ça. EA Sport, ouais.
Ouais. Mais ça permet de se refaire un petit peu de foot. Bah après la saison, quoi, puis qu'il n'y a plus grand chose à se mettre sous la dent de ce point de vue-là.
C'est vrai. Donc voilà, un bon petit week-end pour vous deux. On va présenter un peu ce qui va se passer pendant cette émission. Alors effectivement, sur le côté information, on aura moins de choses à vous dire, principalement des choses pour la saison prochaine. Avec ce qui se passe du côté du SCO, avec ce qui se passe aussi, je crois que ça bouge côté Choletais, ouais, Faustin. Et puis on reviendra un peu là-dessus. Il y a quand même pas mal d'actualités du côté international. On pourra revenir sur les matchs de l'équipe de France qui n'ont pas été grandioses malgré les deux victoires. On parlera un peu de Formule 1, de rugby et un peu de cyclisme et pourquoi pas tennis avec le début de la saison sur herbe qui commence avant. Début juillet, je crois, le début de Wimbledon.
Ouais, ça a commencé, je crois, les premiers Masters. Là.
Ouais, les premiers petits tournois, genre Certo Gamebush, Halleux, des trucs comme ça qui ont commencé. Donc voilà, avec quelques belles perfs, notamment des Français. C'est Manarino qui a battu Tsitsipas et Gasquet qui a battu Medvedev, ou l'inverse, je crois. Mais c'était des belles perfs. Évidemment, comme c'est des Français, ils sont sortis au tour d'après. Mais en tout cas, voilà, on a quand même brillé sur les circuits de tennis sur herbe. Voilà, on va commencer sans plus tard. Ah bah non, j'allais oublier en fait le main event de l'émission.
Oui, c'est peut-être le...
Ouais, non, mais voilà, j'étais perdu. Alors vraiment, j'ai fait ça depuis hier, je suis à fond dessus. Vous l'avez peut-être vu sur nos réseaux sociaux. On a lancé le sondage pour la deuxième édition des Générations d'Or. Voilà, on est très heureux de refaire ça cette année. Donc voilà, même principe que l'année dernière, 5 catégories, 5 voire même 6 pour les clubs nominés. Vous allez soit sur Facebook, soit sur Twitter, soit sur Instagram, il y a toutes les infos. Vous avez juste à voter dans un petit sondage. Cette fois-ci, vous avez moins de temps que l'année dernière, vous avez juste une semaine parce que c'est assez ric-rac sur la fin de saison pour voter pour voilà vos favoris si voilà vous êtes supporter des Ducs, voilà, vous votez pour les Ducs, etc. Bref, récompensez aussi ceux que vous pensez qu'ils ont marqué. Alors c'est pas du tout français ce que je viens de dire, mais en tout cas ceux qui selon vous méritent le plus de remporter un trophée du Génération d'Or. L'année dernière, on rappelle un peu le palmarès, les Loups d'Angers avec une grosse communauté sur les réseaux avaient tout remporté.
Ouais, contre toute attente.
C'est ça, Joao Geraldo, il y avait également le club aussi, ils avaient remporté le club et l'entraîneur David Pillard.
Ouais.
Et pour les espoirs, donc
je crois, oui.
Comment?
Vous n'avez pas eu aussi les espoirs?
Non, espoir, c'était Mohamed Ali Chou, qui du coup est parti à la Real Sociedad depuis. Et puis, on avait Alexis Peterson qui avait gagné pour le sportif féminine. Donc, il y a peut-être aussi un deuxième titre à aller chercher pour Langevine. En tout cas, donc, par rapport à ça, on vous dit, si vous nous écoutez, allez sur les réseaux sociaux pour voter pour voilà vos favoris, vos acteurs du sport angevin que vous voulez récompenser pour cette saison. On a besoin, enfin voilà, on veut savoir votre avis par rapport à ceux qui ont marqué la saison côté angevin. Donc voilà, ça va être très 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 intéressant. Je vous présenterai les différents nominés. Donc voilà, et puis autour de la table, on fera un tour pour savoir qui vous pensez. Encore une fois, c'est pas français, mais ouais. Qui va gagner selon vous? Voilà, ouais. c'est plus français.
Nos outsiders.
C'est ça, exactement. Vos favoris pour chaque génération d'or. On va commencer du coup pour l'instant avec Faustin. Je vais te laisser commencer, tiens, pour Cholet Basket. Alors, on l'a dit, il y a pas mal d'actu au niveau des transferts, notamment.
Exactement. On a d'abord deux resignatures. Celle du pivot Kim Tilly, ainsi que celle de TJ Campbell, qui continue pour une troisième saison du côté de Cholet. C'est des très bonnes signatures qui vont permettre à Cholet de rester à un très bon niveau la saison prochaine. Mais malheureusement, on a aussi appris le départ de Boris Dalo, qui était un joueur pilier un peu de l'équipe, qui s'était vraiment montré très très performant sur la fin de saison. Et on sait aussi du coup que pour le niveau européen, les Choletais devront jouer un tour préliminaire pour se qualifier en Basketball Champions League, ce qui représente la C3, sachant que la saison d'avant du coup c'était en C4, donc une petite augmentation.
Ouais, effectivement, ils pourront peut-être faire un beau coup là-bas.
Ouais, on espère.
Il l'avait déjà disputé il y a quelques années. Hein.
Ouais, c'était en 2010, je crois, un truc comme ça.
Ah, la Champions League, non, je crois que c'est beaucoup plus récent, 2019.
Ah, non, 2010, c'est le dernier titre.
Je crois que ça doit être 2020, 2021 ou un truc comme ça.
Oui, 2010, c'était la dernière fois qu'ils aient gagné.
Voilà, c'est ça, mais ça devait être l'Eurocoupe ou quelque chose comme ça. En tout cas, voilà, ce sera intéressant de suivre les Choletais à l'échelon supérieur. Parce que c'est vrai que les adversaires en C4, ils avaient été quand même plutôt abordables à chaque fois. Malgré la défaite en finale. Et on retrouvera des Choletais d'ailleurs dans les Générations d'Or. Est-ce que c'est bon? Par rapport à ça, pas d'autres infos aussi?
Un petit truc à l'EAB.
Vas-y.
C'est le départ de Yuri Moroz, qui va donc rejoindre Boulazac, qui va rester en Pro B.
Yuri Moroz, renommé Yuri Golitin, ou Golitin, je ne sais pas. C'est pas grave. Il était venu ici en tant que Yuri Moroz, hein, il y a 2 ans. Mais en tout cas, voilà, ça va être intéressant de voir son parcours.
Peut-être faire aussi un point UFAM.
Je t'écoute, Cédric.
Vu qu'on a eu des petites infos qu'on savait déjà sur les départs, Ouais. On savait pas forcément les destinations. Donc on a eu trois infos là-dessus. Bon, Alexis Peterson.
Oui, qui va.
Qui revient du coup dans le championnat.
Qui reste dans le.
Qui revient, puisqu'elle techniquement elle était partie vers les États-Unis.
Non, ouais, mais du coup elle pouvait quand même faire les deux. Parce que la WNBA, tu peux le faire.
Ouais, mais enfin, le projet c'était quand même plus de rester sur le long terme là-bas.
Ouais.
Et du coup, bah, renfort, j'ai envie de dire de luxe, puisqu'elle va renforcer Basketland.
Oui.
Et là, ça va sûrement être encore les grosses, grosses favoris, là, je pense, cette année.
Ouais, même si elles vont connaître beaucoup de départs. J'en ai parlé à Max, qui, lui, est à Mont-de-Marsan. C'est là où se situe Basketland. Il y a Céline Dumerc qui s'en va. Ouais. Il y a Marine Fautou qui s'en va également. Et il y a Marie-Ève Paget qui va disputer une saison de 3x3 avec l'équipe de France et qui du coup ne sera plus engagée pour Basketland. Donc c'est vrai que Peterson, ça reste une grosse recrue, un gros coup quand même, parce qu'apparemment ils voulaient la faire signer depuis un petit moment. Ils avaient de la concurrence, il y avait Bourges qui était aussi dessus, et donc c'est vrai que ça reste un gros coup quand même pour.
Je pense que c'est pas. Ça les met bien quand même.
Ouais, voilà.
C'est pas.
Ils repartent de l'avant, quoi.
Oui. C'est un renfort, mais plus là, c'est
quand
ça.
Quand tu signes ce genre de joueuse, tu vises le top niveau, à mon avis.
Ouais, et puis surtout, elle a montré qu'elle a dominé entièrement son championnat cette année, quoi. Vas-y, je t'écoute.
Dans les suivantes, donc on a Jody Corneli, ouais. Du coup, qui va être sous contrat fédéral. Donc pourquoi? Tout simplement parce que il y a les JO, il y a le 3v3 préparé. Donc on n'a pas trop d'infos là-dessus, mais ce qui a l'air de se ressentir, c'est que la fédération, en tout cas, a l'air de vouloir construire une équipe solide en vue de ces JO, et du coup, beaucoup de joueuses qui vont sûrement être appelées comme ça sous contrat fédéraux pour préparer, et du coup, elles vont se concentrer exclusivement au 3v3.
C'est quand même quelque chose qui est intéressant et à la fois qui pourrait être un peu contesté parce que on ne sait pas trop encore comment ça va se passer au niveau des
il y a déjà des sélections ne serait-ce que là
c'est ça donc on verra mais c'est pas
en tout cas voilà enfin on voit qu'il y a un projet quand même là-dessus.
Au niveau des salaires, est-ce que ça va être les clubs qui vont payer, est-ce que c'est la fédération qui va payer?
C'est contrat fédéraux donc pour moi c'est la fédération qui paye.
Ouais.
En tout cas, enfin, si on juste sur l'appellation, quoi.
Ouais, bah oui.
Après, reste à voir si ça va être contrat fédéraux, mais paiement partagé, oui, c'est.
Ouais, donc heureusement, d'ailleurs, c'est pas méchant, mais heureusement qu'elle est plus au club. Il y a pas cette situation à gérer pour la coach et pour le président.
En moins.
Mais c'est ça.
Et en fait, ça te fait un recrutement potentiellement en plus. Et...
C'est d'ailleurs peut-être c'est... anticipé par le président et la coach.
Peut-être. Après, il y avait des discussions quoi. C'était comme quoi elle voulait jouer en Europe. Du coup, ailleurs en Europe, disputer d'autres championnats. Donc peut-être qu'il y a d'autres choses qui vont avoir lieu dans les jours à venir.
Donc on verra ça.
Et puis dernière petite info sûre, c'est pour Ivana.
Oui.
Qui ira en Italie.
Ok. Bah intéressant parce que voilà, on l'avait reçu dans l'émission. Ouais, Donc c'est intéressant de savoir qu'elle rebondit après une saison compliquée à l'UFAB. On va partir maintenant du côté du SCO. Il y a eu deux grosses nouvelles qui, encore une fois, évidemment, ne concernent pas le terrain. On a eu deux bonnes nouvelles, on peut dire ça comme ça.
Il y en a une, elle est traditionnelle maintenant pour cette période.
C'est ça. Même les deux, en vrai, c'est pas des...
Oui, tu diras depuis...
Les deux en soi.
L'année dernière, c'était Tishan K.
Donc, l'année dernière, on avait eu une interdiction de recrutement à cause d'une affaire avec un joueur du Paris FC.
Toujours par les FIFA.
Par la FIFA. Là, c'est pareil, on a eu une interdiction de recrutement à cause du transfert d'Elias Chetti. Et le tribunal arbitral du sport a levé cette interdiction de recrutement et donc le SCO va pouvoir recruter cette saison. Donc voilà pour la première info, peut-être on reparlera après de ça plus tard. La deuxième info qui effectivement ressemble beaucoup à celle de l'année dernière à la même époque, c'est potentiellement un rachat du club du SCO d'Angers avec Pascal Cani. Qui pour le coup est beaucoup plus local, on va dire que le fonds d'investissement américain GFC. voilà, Pascal Cagny qui est voilà est quand même qui a quand même des attaches du côté d'Angers.
Ancien actionnaire de Paccar Bell.
C'est ça. Et c'est le Courrier de l'Ouest. On va évidemment leur rendre hommage. C'est le Courrier de l'Ouest qui a dévoilé cette information, comme quoi Pascal Cagny, donc homme d'affaires français, qui a donc, comme je disais, quelques attaches à Angers, serait potentiellement intéressé par un rachat du club. Donc voilà, assez intéressant de voir que on peut avoir un repreneur qui n'est pas hors sol, on va dire, au niveau du, qui est plutôt quand même imprégné dans le territoire, et puis surtout de plus voir Chaban sans voilà être trop frontal, mais passer à autre chose. Merci. J'allais dire se débarrasser de lui, mais c'est pas non, comme c'est, ça. C'est un peu trop violent peut-être.
C'est changer de projet,
passer à autre chose.
De tête et de vision quoi.
Voilà, c'est ça, voir d'autres personnes pour apporter une nouvelle vision, parce qu'on voit au final que ça a marché pendant un temps la méthode Chaban, et que qu'en ce moment là ça
c'est dégradé.
Ça fonctionne plus du tout. Donc voilà, c'est vrai que Pascal Cagny c'est un vrai homme d'affaires hein. Voilà, il a été notamment président d'Apple France, donc voilà, c'est un homme très riche. Est-ce qu'il va apporter des moyens colossaux? Peut-être pas sûr, mais en tout cas voilà, ça va être intéressant de voir comment ça va se passer. Et de voir si le SCO va pouvoir retrouver les ambitions en Ligue 2, parce que la concurrence sera très forte du côté de la Ligue 2.
Sachant que les Américains seraient toujours sur le dossier.
Ah bon?
Ouais, En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand ils ont fait l'audit, ils ont décidé de décaler ça à plus tard.
Ouais.
Et ça devait correspondre dans les périodes là, justement.
Ouais. Donc on verra ce qui va se passer. En tout cas, par rapport à la saison prochaine, pas encore de départ, pas encore d'arrivée du côté du mercato du SCO.
En tout cas, pas, on va dire, dans le groupe pro.
C'est ça.
Parce qu'il y a eu quand même des départs sur les jeunes.
Ouais.
Alors, j'ai plus le nom en tête, mais un jeune, je crois, de 17 ans qui était assez prometteur apparemment, voilà.
Ouais.
Et du coup, qui part pour la Corse.
Oui.
Du coup, ça veut dire que le SCO, il n'a sûrement pas proposé un premier contrat pro, en tout cas.
Ouais.
Et c'est un petit peu dommage, je trouve, quand on arrive en Ligue 2, où techniquement, tu dois essayer d'économiser quand même dans ton recrutement, parce que on sait comment c'est dur hein, de tenir en Ligue 2. T'as intérêt d'avoir quand même des moyens financiers solides.
Ouais, pour avoir quand même une bonne équipe, parce que...
C'est ça, parce qu'il faut...
C'est quand même un certain niveau, ça a progressé quand même d'année en année. Il y a des gros clubs, Saint-Etienne qui a du budget, Bordeaux aussi, donc c'est vrai que c'est...
Non, puis surtout que maintenant, on sait qu'il n'y aura que deux montées actées voilà, pendant longtemps. Donc,
non, je crois qu'il y a toujours le barrage, par contre. Je crois qu'il y a toujours le barrage pour la troisième place. Ouais. Tu me regardes, t'es choqué.
Bah oui, parce que dans ce cas-là, je ne vois pas l'intérêt d'avoir modifié le...
Ah bah c'est juste pour, modifier le nombre. Hein,
les nombres, parce que là, ça c'est encore une belle connerie de la Fédé, mais bon, on a l'habitude avec eux. Mais du coup, ouais, on voit qu'il y avait sûrement des gros soucis, même voilà, au niveau du groupe jeune.
Ouais.
Parce que quand t'as une pépite, t'essayes de la conserver, t'essayes d'au moins de mettre un contrat, et apparemment, là, il n'y a rien eu. Donc...
Bon, on verra ce qui va se passer hein, pour le SCO. En tout cas, ça va être intéressant à noter que, petite curiosité quand même, on va changer d'équipementier. On aura Nike. Ouais. Et peut-être qu'on aura... Donc, on n'a plus affaire à Kappa qui, quand même, pendant longtemps, avait sorti un peu les mêmes maillots. Même s'ils avaient essayé d'innover les années précédentes avec plus de noir. Là, pour le coup, Nike va peut-être être intéressant. On verra, évidemment.
Je crois qu'on n'a plus le Gaulois en sponsor.
C'est ça. Ouais. Ça c'est pas plus mal parce que ouais, franchement du beau
gros le gaulois sur
ça, le gros rouge là c'est pas le
plus... ouais, mais bon c'est quand même un de tes plus
par contre oui
t'es gros financièrement donc
financièrement ça reste un gros partenaire,
c'est ça le problème donc, aussi c'est...
Ouais. Va falloir trouver, et je crois qu'il y a même un autre aussi qui est parti, donc on va
sachant que les logos tu les vois que sur les maillots des matchs hein, ça.
Donc on suivra ça évidemment, tout se prépare au SCO, en espérant qu'on ait d'autres infos pour les semaines prochaines, parce que pour l'instant ça rame un peu, même si malgré les deux infos qu'on a eu donc cette semaine, ça rame un peu encore au niveau du SCO. On va passer du côté international maintenant avec notamment le football et la Ligue des Nations qui a rendu son verdict avec ce Final Four organisé aux Pays-Bas. Ce sont les Espagnols qui ont succédé à la France en s'imposant au tir au but contre la Croatie. Et du côté des Français, ils ont disputé donc les éliminatoires pour l'Euro 2024. Deux matchs très très abordables face à Gibraltar et à la Grèce. Malheureusement, il y a deux clean sheets, mais il y a peut-être pas assez de buts. Seulement 3-0 contre Gibraltar et seulement 1-0 contre la Grèce hier, avec un but sur penalty de Kylian Mbappé. Est-ce que vous avez pu regarder un peu les matchs, monsieur?
Ouais. Moi, j'ai vu
plus d'intérêt.
J'ai vu que Gibraltar.
Ouais.
Mais bon.
T'as dormi devant?
Ouais, un peu quand même. Ils avaient mis le bus en défense. C'est quoi?
En même temps, c'était Gibraltar.
Ouais, c'est ça, ils sont obligés de faire
mais
ça.
Mais d'un autre côté, les Bleus auraient pu quand même un minimum.
Après, on a touché deux ou trois fois la barre, une fois le poteau, un truc comme ça.
Ouais, c'est pour ça. Mais toi, c'est vrai, qu'est-ce que t'en penses?
Mais sur le match de Gibraltar, moi, je comprends pas Deschamps.
Ouais.
Enfin, tu. Alors, pour tes gardiens, déjà, je comprends pas du coup sa logique pour les gardiens. Puisqu'il fait jouer techniquement son troisième gardien.
Non, c'est le 2.
C'est le deuxième.
C'est le numéro 2 maintenant.
Il l'a mis en deuxième?
Il l'a mis en 2, il l'a annoncé en 2.
Ouais, voilà, mais enfin bon, on sait pas trop au final qui est réellement le deuxième. Alors, en soi, bon, au vu de sa saison, c'est logique, hein.
Ouais. Il l'a dit en conf de presse.
Mais, tu vois, tu changes ton gardien. Bon, il y avait apparemment une petite blessure.
Ouais.
De manière. Pourquoi tu fais pas tourner plus au centre et plus devant? Vu que tu sais que t'es largement au-dessus de Gibraltar, c'est sur un match comme ça.
Bah, je suis d'accord, mais je dirais plus dans le côté tourné pendant le match.
Ah, ou plutôt, pendant le match, mais
plutôt pour moi parce que
t'as pas forcément besoin de mettre Giroud d'entrée de jeu, tu vois. Par exemple, sur ce match-là.
Les mecs, ils ont que deux matchs à jouer. S'il y en a un sur deux qui est, enfin voilà, il va mettre l'équipe, tu vois. Si Giroud il joue pas les deux matchs ou Griezmann joue pas les deux matchs parce que c'est trop faible en face, tu vois ce que je veux dire? Moi, effectivement,
pour en profiter, je suis d'accord avec toi,
j'aurais aimé voir plus de turnover, genre, tu vois, comme dans les matchs amicaux où à la mi-temps, tu changes quasiment la moitié de ton équipe. Pourquoi pas? Parce que, voilà, ça aura permis d'avoir
t'as que trois changements.
Bah, cinq toujours.
Ou cinq, hein. Je sais plus.
Toujours cinq. Cinq avec trois phases.
Trois sessions. Ouais. Ouais. Trois sessions de changement. Mais en tout cas, ouais, je suis un peu d'accord. Plus de turnover. Parce que je sais pas si vous avez vu aussi l'affaire avec Boubacar Camara.
J'allais en parler.
Qui a dû, partir de sa lune de miel.
Ouais.
Au dernier moment parce qu'il y avait un blessé. Et qu'au final, a joué zéro minute avec les Bleus.
Du Deschamps dans le texte.
C'est
pas la première fois qu'il convoque des joueurs juste comme ça pour les mettre sur le banc. Surtout là, enfin, il le savait quand il l'a appelé. Il aurait pu dire, OK, bon, bah.
Ouais, il aurait pu appeler un autre. Il aurait pu dire, bah.
Et puis, limite,
voilà.
Dans ces cas-là, tu prends un autre poste en remplacement.
Oui, c'est ça.
Il y a peut-être plus besoin de concurrence que là. Enfin, là.
Ou alors, tu prends personne, quoi.
Oui, là, c'était pas non plus.
C'est ça.
Oui, il y a pas grand danger en face, quoi.
C'est ça. Même la Grèce, c'était pas. Voilà,
je suis pas sûr que t'es. Enfin, après, t'as un quota quand même obligatoire minimum de joueurs.
Ouais, tu penses.
Ouais. Mais après, je sais pas. Mais bon, là, pour moi, c'est abusé.
Oui.
Quelque part, moi, je comprends que derrière, il a pas envie de revenir en équipe de France.
Ouais, c'est ça. Et l'année dernière, il y avait déjà Fofana, Wesley Fofana, qui du coup a joué par contre dans ce rassemblement. Il avait du coup dû refuser à cause de son mariage. Pour le coup, lui, il se mariait. Là, c'est une demi-heure. Bon, voilà, il a accepté de venir. Voilà. Après, c'est le joueur qui a bien voulu aussi. Il aurait pu refuser.
Ouais, mais le problème.
Ça aurait été mal vu s'il avait refusé. Ah, là, c'est ça qui est chiant pour lui, quoi.
On sait comment ça se finit quand tu es un petit peu à l'encontre de Deschamps. À l'époque, on aurait pu dire à l'encontre de Deschamps et Le Graët, mais bon.
Oui.
Normalement, il y a plus de petits arrangements entre amis, mais non. Puis au-delà de ça, enfin, moi, je comprends pas qu'ils sortent pas Griezmann contre la Grèce.
Ouais.
Il se prend quand même une belle tatane en pleine tête avec ouverture. Ça saigne bien. On va pas me faire croire que le gars, il a pas fait une commotion cérébrale là derrière.
Bah ouais, ça.
Donc, enfin, surtout là.
Donc tu parles du match d'hier, du coup.
Ouais. Tu protèges ton joueur.
Ouais.
Et tu fais un remplacement. Tu le laisses pas sur le terrain. Enfin, moi, je trouve ça un peu débile.
Oui, surtout tu peux faire tourner.
Surtout là, ouais.
Oui,
après, déjà que bon, on a un penalty, mais bon. Il a fallu se battre, hein. Parce que l'arbitrage de ce match-là.
Oh là là, il a été.
Ah bah, compliqué. Il était temps qu'il parte en retraite, hein, effectivement.
Mateusz Lajos, hein, l'arbitre du match qui est officier du coup pour son dernier match. Il a fait le showman, hein, il a fait son
match.
Voilà, il s'est montré.
C'est, tu sens que c'était la fin. C'est que
sur le carton rouge, il met un carton rouge, il en met un jaune derrière, je sais pas qui. voilà, il voulait briller. comme dirait Deschamps d'ailleurs, on a la sensation que la VAR a pas trop voulu déjuger parce qu'il y a une main dans la surface sur un tir d'Hernandez, il y a Mbappé qui est poussé, il y a un autre aussi qui est poussé, je crois.
Ils l'ont quand même déjugé sur une. Quand le penalty
est retiré. Après, voilà, c'est encore des choses que seul la VAR peut faire, tu vois.
Non, parce qu'hier, il y a eu beaucoup de dévins de savoir si, justement, la VAR marchait réellement.
Ouais.
Si bon, ça arrive, ça aussi. Et du coup, avec le fait qu'ils aient pu faire retirer le penalty, on savait que, du coup, elle fonctionnait. Mais, dans ce match-là, il y a au moins 5 penalties, quoi, de potentiellement sifflés, quoi. même si, alors, selon les caméras, toi, on sait pas trop si le geste est volontaire sur le pied haut, mais dans tous les cas, même si c'est intentionnel, si tu mets carton rouge là-dessus.
Ouais, ouais.
Voilà, c'est un jeu dangereux.
C'est ça, c'est. Plus, quoi. Et t'as le pied haut, mais. Non, ouais, l'arbitrage, je pense aussi, ça a bien haché le. Et puis, enfin, j'ai trouvé que les Grecs, ils avaient envie que de ça, au final.
Ouais.
C'était que de la castagne, presque.
Ouais, bon, après, voilà.
Et puis, bon, 14 minutes de prolongation. Faut arrêter.
Il y a eu la blessure de Griezmann et il y a eu.
Ouais, mais dans ces cas-là, quoi.
En première mi-temps, blessure du gardien aussi.
C'est encore un argument de plus pour dire qu'il faut arrêter le chrono dans ces cas-là.
Oui. Ah, bon, je suis d'accord. Mais bon, voilà. Rassemblement un peu mitigé, ouais. L'équipe de France qui, quand même, fait le plein et qui est toujours à 12 points au niveau de sa poule et qui devrait vraisemblablement se qualifier pour l'Euro 2024 en Allemagne.
On leur enverra une cassette, la finale de rugby, comme ça, ils pourront.
C'est ça, exactement.
Pour apprendre pour l'arbitrage.
sinon, il y aura l'Eurosport qui va débuter dans 2 jours pour nos Français. On a une très belle équipe, donc on suivra ça dans les semaines à venir. On va passer maintenant à la Formule 1. Je sais pas, Cédric, si t'as vu le Grand Prix
du Canada.
C'est ça, Grand Prix du Canada, donc à Montréal, au Québec. Fernando Alonso, il fait quand même une sacrée saison. Il a terminé deuxième derrière Verstappen et devant Hamilton, et il est actuellement sur le podium au classement des pilotes, juste devant Hamilton et derrière Sergio Pérez.
L'Alpha qui est très compétitif.
L'AlphaTauri.
AlphaTauri
qui est compétitif du côté de la Formule 1. Au niveau du rugby, t'en as un peu parlé. Voilà, le Stade Toulousain qui a été sacré champion de France ce week-end.
Une sacrée finale
effectivement, avec cet essai magnifique de Ntamack dans les dernières minutes.
Oui,
78e minute de jeu, il vient traverser tout le Stade de France pour inscrire un essai qui permettra aux Toulousains de remporter leur 22e championnat de France, rien que ça. Donc un nouveau bouclier Brennus pour les Toulousains. À noter, voilà, je sais pas si vous avez vu, j'imagine que tout le monde l'a vu, ce cul sec du président dans le vestiaire avec les Toulousains. On dira pas ce qu'on en pense. Si Cédric, peut-être, tu veux dire un mot?
Non, mais bon, c'est de la récupération politique, faut pas chercher plus loin.
Encore une fois, effectivement.
Moi, je préfère m'attarder sur le scénario.
Oui, c'est ça.
Que de mettre ça en avant, quoi. Sportif, enfin, ça a été quand même une finale serrée, hein, parce qu'à la mi-temps, il y a genre 13-13 ou 14-13. Enfin,
Non, de toute façon, c'est deux grosses équipes. On l'a dit la semaine dernière, ça allait être un gros match.
Ça allait, mais ça aurait pu très vite, en fait, passer à la correctionnelle. Hein, parce qu'il y avait le niveau des deux côtés, quoi.
Donc vraiment très intéressant.
C'est un bon potentiel du coup pour la Coupe du Monde. Arriver vite, hein, parce que là il y avait quasiment l'intégralité de l'équipe de France quasiment sur le terrain. Donc
on va suivre ça de près. Et puis un petit mot de cyclisme avant de passer à la pause musicale. On a appris une triste nouvelle la semaine dernière. C'est la mort du coureur Gino Madère, le Suisse, qui est décédé à la suite d'une chute sur le Tour de Suisse. Et donc voilà, le peloton qui lui a rendu hommage les jours suivants. Et c'est vrai que c'est assez triste la façon dont ce drame est arrivé.
Ah, c'est surtout qu'à cet endroit-là où ils sont deux à sortir, il y en a un qui arrive à se relever et à partir. Enfin, pas, je sais pas s'il est reparti, mais en tout cas, qui a pu remonter cette on va dire une sorte de petit ravin, quoi. Et lui qui laisse sa vie bêtement, j'ai envie de dire. C'est des accidents tout bêtes. Hein,
Ouais.
C'est des zones qui sont pourtant protégées, mais bon, voilà. C'est,
ouais, une mauvaise chute.
Ça arrive tellement vite dans le cyclisme.
Un vrai.
Mais
un
en
vrai
tout cas, enfin. Il y a eu de très bonnes, en fait, réactions du côté de l'organisation parce que ils ont été, pour l'étape suivante au départ, ils voulaient tout annuler.
Ouais.
Ensuite, la famille souhaitait que ça continue, donc ils ont fait courir un peu moins.
Ouais.
Et au final, le peloton, en fait, a roulé juste en mode hommage.
Ouais.
Donc, voilà, enfin, ça, c'est pas souvent qu'on voit des organisations, voilà, prendre des décisions claires et nettes.
Et surtout dans la volonté des familles.
Et voilà, oui, oui.
Non, mais effectivement, c'est vrai que c'était un drame à quelques semaines du Tour de France qui aura lieu bientôt. On va passer maintenant à une pause musicale et on se retrouvera juste après pour parler des générations d'or. On va s'écouter tout de suite The Weeknd et son titre Starboy, pardon, en featuring avec Daft Punk.
My car if I kill anything.
C'était Starboy, le remix avec Daft Punk, avec également donc The Weeknd. On est de retour dans Génération Sport, ensemble jusqu'à 21h, pour parler de sport, pour parler également des générations d'or qui ont ouvert, on va dire, avec ce sondage qui et sur les réseaux sociaux. Allez le retrouver sur nos comptes Twitter, Facebook et Instagram. On va parler de ça. Avant, évidemment, vous nous écoutez depuis le 101.5 FM ou bien sur www.radio-g.fr. Faustin, tu voulais nous faire un petit point sur la Betclic Elite parce que tout n'est pas fini au niveau du basket. Il y a eu cette finale de championnat de France qui a été remportée par
Monaco, du coup,
eh oui.
qui a enlisé, je vais dire, un clean sheet dans ses playoffs, qui n'a perdu tout simplement aucun match en trois rencontres, enfin en trois tours de playoffs. C'est une victoire amplement méritée au vu de leur domination totale durant la saison régulière et même au vu de leur performance en Euroleague. C'était du coup c'est Jordan Lloyd qui a été élu MVP des finales, et quand on voit les shoots qu'il a mis dans le game dans le match décisif pour faire gagner son équipe, c'est-à-dire qu'il met 2-3 points absolument monumentaux venus d'ailleurs en finale dans la dernière minute qui donne la victoire à son équipe, bah c'est tout à fait mérité aussi. C'était donc aussi le dernier match de Victor Wembanyama sous les couleurs des Mets. Peut-être pas, j'ai envie de dire.
Son dernier match en France?
J'ai envie de dire peut-être pas, on sait jamais. Peut-être
oui, c'est
que
vrai.
La NBA, retour, à mon avis, vont vouloir le faire jouer à Paris.
J'imagine. Ah oui, tu penses?
Si y a un retour de la NBA à Paris, j'imagine qu'ils vont essayer de mettre.
Il y aura, de toute façon.
Ouais, il y aura.
Vu l'argent que ça encore.
Ah oui, tu veux dire en France, ok. Localement, en France.
Ouais, c'est ça.
Je parlais d'un club français.
Ah, un club français, ça risque d'être compliqué.
Ouais. À part s'il fait comme Tony Parker, qui avait fait, je crois, 6 mois à l'ASVEL dans sa carrière.
Ouais, peut-être.
Donc, à voir.
On sait jamais.
Voilà.
Avant
fin de carrière.
Oui, avant très longtemps, à mon avis. Ouais. Il a d'autres choses à penser que
exactement.
Le club français.
Et du coup, il s'est envolé directement après pour New York pour préparer sa draft qui aura lieu dans la nuit de jeudi à vendredi.
Ouais, c'est bientôt.
Ouais.
C'est bientôt. L'officialisation, en gros, de son arrivée à Saint-Antonio.
Il a fait une petite gaffe en conférence de presse. Il a fait, ouais, j'ai des allers-retours à faire aux États-Unis.
Aux États-Unis d'Amérique. Donc voilà, on suivra ça pour.
Il a dit Wembanyama. San Diego.
Oui,
il y a sûrement de Comic-Con.
C'est ça, peut-être. Bon, en tout cas, merci Faustin pour ce petit point basket. On va parler des générations d'or. Vous le savez, ces trophées que nous avons décidé de remettre, à titre honorifique, aux acteurs du sport angevin. C'est important pour nous, de reparler un peu, faire le bilan. Ça donne l'occasion de faire le bilan un peu de toutes les grosses performances des sportifs, des coachs aussi qui ont bien travaillé, de parler des quelques pépites, mais aussi de féliciter les actions des clubs. On va commencer sans plus tarder avec le Génération d'Or du meilleur sportif. Son nominé dans cette catégorie, Williams Malebar, nommé capitaine du Scoumba Ball à l'été dernier, et seulement un an après son arrivée, Williams Malebar a fait des malheurs sur son aile gauche sur les terrains de National 1 Elite. Meilleur buteur du score en championnat, l'ancien Cherbourgeois a été l'un des plus grands artisans de la remontée des handballeurs angevins en Pro League. Evan Colley, il avait la pression sur ses épaules en succédant à Florian Hardy il y a 2 ans. Et depuis, Evan Colley a bien grandi dans les cages des Ducs. Le Canadien a brillé à l'Ice Park tout au long de la saison, mouvementé des hockeyeurs locaux, terminant même meilleur gardien de Ligue Magnus. Akemji Williams, en surfant sur un exercice de 2021-2022 excellent, ponctué par une montée en Pro B, Akemji Williams s'inscrit dans la durée en Anjou et a réalisé une transition remarquable entre la 3e et la 2e division. L'Américain termine meilleur passeur et meilleur intercepteur de Pro B et 2e meilleur marqueur de l'EAB. Il s'agit de sa 2e domination dans les générations d'or. John Persson, Joao Geraldo avait remporté le Génération d'Or du meilleur sportif angevin l'année dernière, et cette année, son coéquipier des Loups d'Angers, John Persson, a une chance de pouvoir lui succéder. Le Suédois s'est révélé comme le meilleur joueur de son équipe cette saison, malgré l'élimination en demi-finale de play-off de Pro A. Dominique Artis, débarqué en 2021 dans les Mauges, Dominique Artis partira l'été prochain avec le sentiment du devoir accompli sur la saison 2022-2023. Meilleur marqueur de Cholet, sélectionné All-Star Game, finaliste de la Coupe d'Europe de la FIBA et héros du quart de finale retour de play-off contre les Mets 92. Bref, une saison quasi parfaite pour l'arrière américain. Voilà pour les cinq nommés. Je rappelle donc William Smanebar, français du Angers Squash Handball, Evan Colley, canadien des Ducs d'Angers, Akemji Williams, américain de l'Étoile Angers Basket, John Persson, suédois des Loups d'Angers, et Dominic Curtis, américain de Cholet Basket. Donc voilà, pas mal de diversité au niveau des nationalités. Messieurs, je vais me retourner vers vous. Quel est votre favori, c'est-à-dire votre choix, on va dire, votre vote?
Moi, je serais parti sur un Dominic Curtis.
Ok.
Je sais que l'année dernière, j'avais dit Akemji Williams, mais là, je trouvais cette année un peu moins dominant. Tu vois, tu le dis, il est meilleur en interception et en passe, là où l'année dernière, il était plus vraiment dans le scoring. Ouais. C'était plus impressionnant. Après, j'avoue que je connais pas trop non plus vraiment les performances, notamment au Loup d'Angers et au score de balle. Mais sinon, du coup, pour Dominic Curtis, il a fait une saison de fou.
Ouais.
Où il y a eu une petite absence de TJ Campbell pendant un moment, et là, il a su prendre son rôle, il a su leader l'équipe avec la menée très haut, où ils ont fait peut-être leur meilleure saison depuis un certain temps, en plus Cholet.
Cédric, quel est ton choix? Pour toi, quel est le meilleur sportif?
En fait, ça va être plus par défaut, je vais dire, parce que comme j'ai suivi quasiment que le parcours des Ducs,
ouais,
je pourrais pas juger en fait pour les autres. Donc voilà, pour moi, ça va pour Evan, quoi.
Evan Colley.
Avec sa saison quand même qui est bien réussie, malgré une blessure, voilà, dans les périodes de Coupe d'Europe, il est bien super remplaçant. Mm-hmm. Voilà, ça fait deux saisons qu'il y a quand même quelque chose de sérieux dans les cages des Ducs. Donc naturellement, voilà, mon choix il va là-dessus.
Pour ma part, j'irai sur un troisième choix différent. J'irai sur William Smanebar, qui a été tout simplement l'homme providentiel du côté du Squamball, qui a permis qui a permis au club de remonter. Il est aussi capitaine, donc ça reste quelque chose selon moi qui est primordial, en tout cas qui permet d'avoir un rôle important dans une équipe. Donc voilà, moi je partirai là-dessus. Évidemment, chers auditeurs, vous êtes libres de voter pour qui vous voulez. On vous le rappelle encore une fois, je vais le répéter souvent dans l'émission. Allez voter avec le lien qui sont sur nos réseaux sociaux, dans la bio Insta, dans le tweet épinglé sur Twitter et dans notre toute dernière publication sur Facebook. On va passer maintenant à la meilleure sportive féminine. Les nommés sont Alexis Pettersson, la tenante du titre de Génération d'Or de la meilleure sportive, a réussi l'exploit de réaliser une meilleure saison que celle de l'an passé. Si elle ne figure pas dans le 5 majeur de la LFB, l'Américaine a tout simplement terminé meilleure marqueuse de la saison régulière et a surtout pondu la meilleure performance de l'histoire du championnat contre les Flames Carolo avec un score de 50 d'évaluation. Kekeli Elenga. Après une saison dernière compliquée par les blessures, la capitaine de l'UFAB 49 s'est mise en avant cette année par son leadership et sa mentalité de gagnante. Deuxième meilleure maqueuse angevine derrière l'Inaretta Peterson, elle a été régulière tout au long de la saison et a également porté son équipe haut sur la scène européenne en Eurocoupe. Solène Bilouin. Ce n'est pas tous les jours qu'une angevine est championne du monde. Alors, le 1er octobre dernier à Molveno en Italie, c'est un petit bout d'histoire qu'a écrit Solène Bilouin, pensionnaire du SCO cyclisme et du SCO triathlon. La triathlète française a remporté donc les championnats du monde Xterra en 3h11 après 1500 mètres de natation, 30 kilomètres de VTT et 10 km de course à pied en route. Oui, car Solène Bilouin est adepte du cross triathlon, discipline dans laquelle elle a décroché aussi une médaille de bronze la même année au championnat du monde. Amandine Brossier. Si la championne de France de 400 mètres a connu une grande désillusion avec la perte de la subvention de la Fédération d'athlétisme, elle n'a pas envie de lâcher son objectif de courir pour les Jeux de Paris en 2024. Sa participation au championnat du monde de Gênes en 2022 avec le relais français du 4x400 mètres, qui s'est d'ailleurs terminé par une cinquième place, montre que l'Angevine peut encore évoluer à très haut niveau. Jasmine Bellet, son duo avec sa compatriote Peterson a fait des misères dans les défenses de LFB. Bellet est la première et la meilleure rebondeuse offensive du championnat et son explosivité à Fedel, l'une des pièces majeures de l'équipe dirigée par Aurélie Bonan. À l'image de l'UFAB 49, elle a très bien terminé l'exercice 2022-2023. Messieurs, parmi toutes ces dames, qui aura votre préférence pour le titre de meilleure sportive angevine de l'année?
J'irai sur un back-to-back de Alexis Peterson.
Sans grande surprise.
Ouais, voilà, qui était ultra dominante dans toute la ligue. Je comprends même pas pourquoi elle est pas dans le 5, hein, honnêtement, parce que meilleure scoreuse, etc.
Oui. C'est sûrement décerné avant sa fin de saison qui était assez incroyable.
Ouais, c'est ça. Mais parce que vraiment, c'est voir ça dans la ligue féminine, c'est assez rare. Et vraiment, ultra dominante, très beau à voir jouer. C'est sans aucun doute que mon vote va pour elle.
Très bien. Cédric, est-ce que toi aussi tu pars sur le choix Peterson?
Alors, ce serait le choix logique au vu de la saison, mais je me dis que ses coéquipières méritent autant au final.
Ok.
Si je devais mettre quelqu'un du FAB, ce serait plus sur Kekeli.
Ok.
Mais on sait souvent que, enfin, l'année dernière, il y avait déjà une grosse, voilà, mise en avant de l'UFAM.
Ouais.
Là, elles sont en nombre. On sait que souvent, plus elles sont nominées, souvent dans les votes, ça peut faire la différence.
C'est ça. Après, ça peut aussi.
Et que ça va, les votes vont peut-être aller vers les, on va dire, les deux outsiders.
Ça peut se manger les votes, mais. C'est vrai que là, il y a trois.
En tout cas, sur le papier, l'UFAM part largement
favori pour
récupérer le titre dans cette catégorie-là.
Donc toi, tu serais sur Kelly, du coup.
Ouais.
Capitaine emblématique du club de handball. Alors moi, je partirais
de basket.
Moi, je partirais sur Peterson de façon assez évidente. Maintenant, c'est vrai que en tout cas, si je devais donner un deuxième choix, j'irais sur Solène Bilouin, qui est quand même. Voilà, l'une des meilleures dans sa discipline, alors qui est quand même pas très médiatisée, mais qui est quand même la meilleure et qui fait aussi du cyclo-cross, et donc c'est assez intéressant de la voir évoluer du côté du triathlon mais aussi du cyclisme. Donc voilà. Et Amandine Brossi, on avait parlé cette année, c'est vrai que tu avais ramené ton journal carrément pour parler un peu ce scandale, on va dire.
C'est une affaire quand même assez compliquée comprendre. Ouais.
C'est ça. Et avec c'était donc l'arrêt de son aide financière fournie par la Fédération française d'athlétisme à 2 ans des Jeux Olympiques, à moins de 2 ans d'ailleurs des Jeux Olympiques.
On n'a pas eu de nouvelles depuis.
En tout cas, elle travaille dans son coin.
Alors, en tout cas enfin, on va dire, sur un point de vue financier, j'ai jamais vu d'article qui disait, elle a trouvé un nouveau sponsor ou.
Non, mais voilà, après, elle se débrouille à son petit niveau.
Ouais, mais bon, enfin, voilà, c'est. Quand on voit certaines athlètes qui sont mis en avant en athlétisme et au final font des échecs sur échecs, et là, on a quand même un potentiel certain.
Ouais.
C'est par rapport à son âge, tout ça, et puis, aux choses qu'elle avait montrées. C'est toujours bizarre. On sait que de toute façon, tout ce qui est subvention comme ça aussi, c'est de la politique. Hein.
Bah, c'est pour économiser un peu, mais bon, voilà, c'était pas très mal de la part de la fédération quand tu sais que c'est ta meilleure coureuse de 400 mètres quasiment.
Ouais, c'est ça.
Donc bref, à noter qu'elle n'a pas pu disputer le merde. Pardon, excusez-moi pour ce gros mot. Le meeting de Paris. Là récemment début du mois parce que voilà elle se prépare pour d'autres échéanses notamment les championnats de France qui arrivent très bientôt.
De toute façon les championnats de France ils vont sûrement être juge de paix hein, pour tout ce qui est histoire de qualification hein. Généralement c'est là que l'équipe de France commence à se dessiner
et puis aussi elle a une grosse communauté donc beaucoup de gens la connaissent quand même sur Angers donc peut-être qu'elle pourra se démarquer par rapport à ça sur les votes. On va passer maintenant au meilleur espoir. Son nominé dans cette catégorie, Tom Balem, auteur de 45 buts en N1 Elite. Tom Balem a montré toute sa progression effectuée sur les dernières années au SCO Handball, malgré la concurrence à son poste. Le Français est âgé de 20 ans. Leila Lacan, 18 ans, UFAB 49. Arrivée en Anjou comme l'une des meilleures espoirs françaises l'été dernier, Leila Lacan a fait parler son talent avec l'UFAB 49 au point d'être sélectionnée avec l'équipe de France pour l'Euro qui se déroule en ce moment même. Avec le départ de Peterson, elle aura un tout autre rôle à jouer pour la saison prochaine. Matteo Leray, 20 ans, Cholet Basket. Malgré quelques apparitions en Belgique Elite, c'est bien dans le championnat espoir que Matteo Leray a brillé sous les couleurs de Cholet Basket. Le pensionnaire de l'Académie Gautier a été élu MVP de l'élite espoir tout en remportant le doublé avec son équipe championnat plus trophée du futur. Sean Tanner, 21 ans, étoile Angers Basket. À seulement 21 ans, Sean Tanner culmine à plus de 10 points de moyenne cette saison en 34 matchs de Pro B. L'ancien joueur d'Antibes a participé également au titre de l'EAB en Leaders Cup. Jean-Matteo Baoya, 18 ans, Angesco. Né en 2005, Jean-Matteo Baoya a tout pour succéder à Mohamed Alichaud en termes de précocité au SCO d'Angers. Dans une saison catastrophique où les jeunes ont été l'une des seules satisfactions de la saison, l'attaquant a intégré le groupe pro au fil de la saison au point d'être titulaire en avril dernier face au PSG. Celui qui côtoie régulièrement les équipes de France U18 et U20 totalise 10 matchs en Ligue 1 et sera à suivre pour la saison prochaine en Ligue 2. Messieurs, un favori rapidement puisque le temps presse, il nous reste encore deux catégories. Un favori pour cette
Là je te dis j'hésite un peu parce que je trouve que la plupart des jeunes ont un super potentiel vraiment, mais que pour l'instant il n'est pas encore au maximum du développement et j'ai du mal à dire qui a fait vraiment la meilleure saison.
Après, c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué avec les espoirs comme ça. Est-ce qu'on juge leur potentiel, est-ce qu'on juge ce qu'ils ont fait cette saison? C'est toujours compliqué.
On a dit sur le potentiel, c'est sans aucun doute Leila Lacan, à mon avis, qui va exploser, je pense, la saison prochaine, ce qu'on pourra peut-être voir dans les meilleures sportives. Mais sinon, sur la saison en tant que telle, peut-être Sean, je pense, qui a réalisé une bonne saison avec, comme tu l'as dit, 10 points de moyenne. En niveau pro, c'est fort.
Ouais, à 21 ans seulement. Cédric?
Ben, je me suis pour Leila Lacan.
Ok, Leila Lacan. Je partirai aussi sur Leila Lacan parce que quand même très très jeune, 2004, qui a quand même beaucoup joué aussi avec l'UFAB, donc surtout sélectionné à l'équipe de France.
Bonne progression.
C'est pas tous les jours qu'on a une sélectionnée en équipe de France à Angers.
Malgré quelques critiques en ce moment sur l'équipe de France par rapport à son style de jeu par rapport à sa première phase de. Pour les championnats d'Europe.
C'est compliqué, ouais. Je crois que le troisième match est ce soir, si je dis pas de bêtises, non? Ou alors c'est déjà fait?
Non, il n'y en a que deux, il me semble, de jouer pour l'instant.
Ok.
Donc, ouais, c'est peut-être ce soir ou demain soir.
C'est à toi de suivre ça. C'est pas grave. Mais en tout cas, on va passer maintenant au meilleur coach de la saison. Son nominé, Issam Tej, Angesco Handball, promu entraîneur de l'équipe professionnelle après plusieurs années dans le staff de Guillaume Dupin. Issam Tej tient son premier accomplissement en Angesco Handball. Son équipe a réalisé une saison quasi parfaite et a obtenu sa remontée en Pro League. L'ancien pivot légendaire de Montpellier a également dû faire face aux blessures et au départ en fin de saison, cause majeure de la défaite en finale de championnat. Ali Bouziane, étoile Angers Basket, arrivé l'été dernier à l'étoile, Ali Bouziane est rentré dans l'histoire du club tout simplement en décrochant le premier titre de l'EAB depuis sa création en 2017. Avec un parcours sans faute en Leaders Cup, l'ancien international algérien a été récompensé de son travail et a fait du promu un prétendant sérieux au play-off de Pro B. Aurélie Bonan, UFAB 49, son arrivée sur le banc de l'UFAB n'était pas forcément prévue il y a un an, mais Aurélie Bonan a su imposer sa méthode pour faire briller le club blanc et violet. Même résultat en championnat que son prédécesseur David Gauthier et quart de finale d'Eurocoupe. Le job a été bien fait par la Landaise. Laurent Villa, Cholet Basket, déjà nominé l'année dernière, Laurent Villa a connu pourtant une saison au scénario inverse par rapport à l'an passé. Bien parti pour s'installer dans le top 4 de la phase régulière, ses Choletais ont dégringolé à la 7e place, mais auront challengé les Mets 92 jusqu'au bout. À noter surtout son parcours en C4, qui s'est malheureusement terminé par une défaite en finale contre les Polonais de Włocławek. Et enfin, Valentin Rey, Croix-Blanche, Angers Football. Place incontournable du football féminin à Angers, la Croix-Blanche a fait vivre de belles émotions à ses supporters. Le coach de l'équipe première, Valentin Rey, a été récompensé de son travail par cette montée en troisième division nationale féminine, ainsi que par une Coupe de l'Anjou. Je vais terminer, avant d'avoir vos avis sur les deux dernières catégories, en vous parlant des meilleurs clubs, les six nominés. On va commencer par Angersco Handball dans leur nouvelle salle du Hara, plus remplie que Jambouin. Les handballeurs du SCO ont prouvé qu'ils avaient leur place en Pro League et ils rejoueront même dès l'année prochaine. Un nouvel élan semble donc de se dessiner du côté du Hara. Étoile Angers Basket, ce club angevin a remporté un titre national cette saison. L'Étoile Angers Basket a évidemment parfaitement géré cette transition avec la Pro B et n'a pas eu besoin de forcer pour obtenir son maintien. UFAB 49, alors que l'objectif du maintien a été acquis en toute fin de saison, c'est aussi en Coupe d'Europe que l'UFAB a brillé. Angers a donc pu rayonner sur la scène européenne grâce notamment aux joueuses d'Aurélie Bonan. Si la saison des Ducs d'Angers a été moins épique que celle de l'an passé, les hockeyeurs angevins nous ont fait vibrer en Coupe d'Europe, arrivant deuxième du final de Continental Cup organisé ici même à l'Ice Park. Croix-Blanche Angers Football, avec leur montée en Détroit, les Angevines auront fort à faire sur la scène nationale. Le club, référence du foot féminin en Maine-et-Loire, a aussi fait parler de lui grâce à un partenariat avec l'association Espérance pour mettre en place la pratique du football adapté, qui a été récompensé notamment par un titre de lauréat de la Dalle Angevine et également la Croix-Blanche qui propose une section Cécifoot. On termine par les Loups d'Angers. En plus de leur demi-finale de play-off de proie, le club des Loups d'Angers peuvent aussi bénéficier sur Matteo Boeas, double médaillé de bronze au championnat du monde handisport de tennis de table, pour faire briller donc son club. Les Loups d'Angers peuvent aussi compter sur une nouvelle enceinte, la salle de l'Europe du côté de Montplaisir. Voilà pour les deux dernières catégories. Messieurs, rapidement, votre meilleur coach et votre meilleur club de l'année.
Pour le coach, j'irai sur Laurent Villa, à mon avis, qui est, ils ont réalisé une saison très complète à Cholet. Donc sans trop d'arguments, pour aller vite. Mais sinon aussi pour le meilleur club, j'irais peut-être sur le AB justement, qui ont, tu l'as dit, c'est les seuls à avoir gagné un titre, avoir gagné un trophée finalement.
Ouais, national.
Donc ce serait pour cette raison.
Cédric.
Alors pour entraîneur, moi j'irais plus sur Henri Bonan.
Ok.
Voilà, pour le parcours.
T'as choisi beaucoup de nos invités,
de cette année. Non, mais pour le parcours, c'est pas évident de reprendre une équipe que t'en as pas choisi. Sachant qu'il y avait l'Europe, il y avait tout.
Un contexte pas facile.
Voilà, puis, cette catégorie-là, il aurait presque fallu la diviser en deux parce que on a quand même du monde amateur contre du monde professionnel.
Ouais, c'est sûr.
Et, s'il fallait diviser, je pense, j'aurais mis le titre pour Valentin Rey.
Ouais.
Donc ça. Pour les clubs, je suis pas vraiment de favori parce que à leur niveau, ils ont tous quelque chose de marquant. Mm. Même s'il y a un titre effectivement, si on se base sur cet aspect-là, pour départager, mais je trouve que dans l'ensemble, entre les Ducs qui font une super Coupe d'Europe. Le Hand, qui remonte, enfin, techniquement, j'ai envie de dire, ils sont champions de leur division, ils sont juste battus par une réserve, Et puis, pour les, tout ce que t'as expliqué pour le milieu, amateur aussi, du coup, Donc, c'est pour ça, pour moi, c'est très compliqué, cette catégorie-là.
Très bien. On va vous laisser avec les plantes vagabondes qui nous suivent juste après, en vous souhaitant également une bonne soirée sur Radio G.